Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrover.
www.acretech.ch. Avant de rencontrer mon invité, un tour sur le site web de son entreprise pour préparer l'entretien. Et là, vous vous rendez vite compte qu'on ne parle pas que d'une société. Un menu détaille les entreprises, Décovi à Vic, DGC en France, Général Ressort à Bienne, Kif par Choc dans la vallée de Joux, Mudec à La Chaux-de-Fonds, Petit Pierre à Cortaillot, Précipro au Loc, STS au Sentier à La Chaux-de-Fonds, Vardéco à Develier. Il faut prendre son souffle avant d'en parler. Et le dernier arrivé, Gasser Ravussin à Lussan, dont l'acquisition a été confirmée début avril. Quel est le dénominateur commun de toutes ces entreprises? Pourquoi cette politique d'acquisition? Comment gérer l'intégration d'autant d'entreprises? J'ai posé toutes ces questions à notre invité pour préparer cette émission et j'ai obtenu toutes les réponses en 30 minutes chrono. Parce que oui, notre invité communique, mais sans se répandre, il aime l'efficacité. Il me l'a dit d'ailleurs, il faut limiter les séances, savoir à quoi ça sert. Alors on va encore raccourcir ce soir, on n'a que 25 minutes. Bonsoir François Billig.
Bonsoir.
Et bienvenue dans Sortie de boîte. Vous êtes le créateur et le président du groupe Acretech depuis sa fondation en 2006. À la base, vous avez une formation en droit et en économie. En France, vous avez été associé chez KPMG. Avant de parler de la Suisse, un petit mot peut-être de l'actualité en France. L'élection d'Emmanuel Macron, ça va changer quoi à votre avis ?
Ok, je pense que c'est le moindre mal, puisqu'on avait quand même une crainte qu'il y ait un combat, un deuxième tour entre deux candidats extrêmes, et ça aurait été vraiment dommageable pour la France et pour les relations avec les pays voisins et notamment avec la Suisse.
En tant qu'entrepreneur en Suisse, c'était important cette élection ?
Oui, c'était important. Il fallait qu'on ait un candidat qui reste ouvert sur l'Europe et qui permette la libre circulation des personnes et des marchandises, qui est quand même... ça permet de développer les États, de tous les États.
Surtout, vous avez une politique beaucoup axée sur l'exportation ici.
Bien entendu, pour l'entreprise où on est aujourd'hui, c'est-à-dire Vardéco, exporte à plus de 90%, plus de 90%, et exporte dans les pays voisins, en Europe et aussi ailleurs, au Japon, aux États-Unis et même en Chine.
On va parler un petit peu de vous avant de parler de la société. Comment on passe de la comptabilité en France, de l'audit en France, à la microtechnique en Suisse ?
Alors c'est vraiment un hasard puisque j'ai commencé des études d'expert comptable, de droit et d'économie et ensuite je suis rentré, c'était assez naturel chez KPMG, je suis sorti comme associé et comme directeur adjoint du bureau de Strasbourg, mais ma vocation c'était de rester qu'un certain temps dans ce secteur et j'avais toujours eu envie de créer ma propre entreprise et d'être indépendant. Donc une fois, après avoir passé 7 ans chez KPMG, j'ai été débauché par un client, la société Hans Grohe, dans la robinetterie, qui m'a offert le poste de directeur général de la France, poste que j'ai accepté. Et c'était tout un autre travail, puisque je gérais une équipe commerciale. Et ça, c'était tout à fait différent, mais bien complémentaire par rapport à ma première formation en finance et en économie.
L'indépendance, ça veut aussi dire beaucoup de responsabilités. Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Oui, alors l'indépendance, j'ai travaillé dans les grands groupes, je sais les contraintes et aussi les avantages que ça peut avoir. En termes de contraintes, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de pertes de temps et bien entendu, on est dépendant de sa hiérarchie, et chose que je n'avais plus envie, même si aujourd'hui, si je suis indépendant, mais je suis toujours au service de quelqu'un et c'est les clients qui sont nos maîtres et c'est pour eux qu'on travaille et je crois que c'est plus naturel comme ça.
Il n'y a pas de réunionnite dans le groupe ?
Non, la réunionnite, je crois que c'est... Quand j'étais dans les grosses sociétés, ça me faisait mal au cœur quand on faisait des réunions interminables. Je calculais un peu le salaire de chaque salarié et qui composait cette réunion et je me rendais compte qu'on dépensait beaucoup d'argent pour peu d'efficacité et c'était certainement un des domaines que où j'allais intervenir pour supprimer ce type de réunions interminables qui ne rapportent pas grand-chose et qui ne sont souvent pas très efficaces, mais ce dont on est sûr, c'est qu'elles sont très chères.
Avec votre parcours chez KPMG, vous avez vu passer des livres, des comptes et des comptes et encore des comptes. Aujourd'hui, ça vous apporte quelque chose au moment, par exemple, de procéder à l'acquisition d'une entreprise ? C'est un parcours qui vous aide aujourd'hui ?
Bien entendu, lorsqu'on est dans un cabinet de conseil ou dans un cabinet d'audit, on a une position de voyeur. on voit tout ce qui se fait dans les entreprises, ce qui se fait de bien, ce qui se fait de pas bien. Et en fait, on dit toujours le métier, on l'apprend chez nos clients. Donc j'ai pris, pendant les 7 ans que j'ai passé chez KPMG, j'ai appris beaucoup de choses. Et ce que j'ai appris me sert pour, dans mes domaines d'activité aujourd'hui, et notamment dans l'acquisition d'entreprises pour évaluer la valeur et le potentiel d'une société qu'on rachète.
Votre arrivée, elle a commencé ici à Develier, chez Vardeco. Comment ça s'est passé ?
Alors c'est vraiment un hasard, c'est dans une rencontre, dans une partie de chasse. J'ai rencontré par hasard un dirigeant d'entreprise, d'Élémontin, qui voulait vendre son entreprise. Et en fait, je ne connaissais ni le décolletage, ni Delémont. Et c'est le hasard qui a fait certainement bien les choses, puisque c'est comme ça que je suis venu dans le Jura et j'ai découvert la région et cette activité qui est très spécifique, le décolletage, qui est présente dans l'arc jurassien et aussi en France, dans la vallée de l'Arve.
Vardeco, nous l'avons visité. Jean-Michel est venu vous voir. Il a pour guide Marjolaine Cordier, responsable de production.
Sortie de boîte.
Donc nous, on fait essentiellement du décolletage à cam. Donc on travaille sur des machines ancestrales qui ont plus de 50 ans, beaucoup de machines Tornos. Toujours avec, à partir de cam, on a 3 camistes chez nous qui réalisent donc nos jeux de cam. On a essentiellement misé sur les machines à haute vitesse qui peuvent tourner jusqu'à 18 000 tours. Et voilà, aujourd'hui on a plus de 200 décolleteuses et on a une activité qui en ce moment se porte plutôt bien.
Alors vous le disiez, un grand nombre de machines. Hein.
Alors 350 machines, c'est si on regroupe les machines de décolletage, les machines de reprise, les machines d'assemblage. On a plus de 200 machines de décolletage qui tournent. Donc si on parle d'une cinquantaine de machines de reprise. Reprise, ça veut dire on reprend nos pièces décolletées et on rajoute des opérations supplémentaires sur les machines de reprise.
Alors le décolletage, c'est un métier qu'on connaissait bien du temps de l'horlogerie, qui se fait encore actuellement. Mais dans le domaine de l'électronique, aujourd'hui, c'est important aussi.
Voilà, nos sociétés, au moment un peu de la crise horlogère, dans les années, je pense, 1970-80, a profité du démarrage des téléphones et de la connectique pour basculer ses productions sur ce genre de marché. Et aujourd'hui, on est dans l'électronique, dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans le médical. Alors, c'est des marges et des prix un peu différents de l'horlogerie, mais c'est des domaines d'application qui ont bien permis de transformer et de pérenniser ce savoir-faire ancestral.
Marc Vallen, vous voyez passer combien de pièces par jour ?
Oula, on les compte pas quand même parce que ça fait un sacré volume. Donc sur notre parc machine, en deux décolleteurs, on a 50 machines. Mm-hmm. Ils produisent en moyenne, je pense, 20 pièces minute. Donc le calcul peut être fait. Donc c'est quand même de gros volumes qui passent tous les jours, qui suivent dans l'usine de deux pièces.
Marjolaine Cordier, on est dans le 1,5 milliard de pièces par année ici. C'est un chiffre qui est énorme. Comment est-ce que l'on gère ça ? Parce que ça demande quand même une gestion et ça implique quand même pas mal de choses pour une entreprise.
Alors déjà, chez nous, faut savoir qu'on parle toujours au mille, hein, on ne parle pas à l'unité de pièce. Ensuite, on a un prix pareil qui est au mille. Hein, donc, à un moment donné, ça fait partie de notre process et de notre industrie que de produire beaucoup, beaucoup de pièces. Il faut, après, comme je l'expliquais, c'est surtout gérer le flux logistique parce qu'on fait des volumes. Donc, ça contraint les personnes en production à gérer ces milliers de boîtes qui sont produites annuellement. Et on a des procédés après de fabrication adaptés à ces volumes. Maintenant, chacun son domaine d'activité. C'est vrai que nous, c'est le nôtre et que pour rester dans ce marché de niche, il faut être capable de produire autant de pièces et d'être capable de le gérer.
Sortie de boîte.
Sortie de boîte s'intéresse ce soir au groupe Acrotech avec son président et fondateur François Bélique. Vardeco, en tant que première entreprise, vous en avez fait l'acquisition en 2001, et elle garde un statut particulier dans le groupe aujourd'hui ?
Oui, c'est certainement l'entreprise que je préfère puisque c'est celle avec qui j'ai commencé, où j'ai commencé vraiment à la base. Une activité qui a commencé très fort parce que j'étais déjà présent en l'an 2000 et ensuite il y a eu l'effondrement de 2001. Qu'il fallait prendre des mesures, il fallait réduire la voilure pour repartir de plus fort et surtout trouver des nouveaux produits, de concevoir des nouvelles machines pour aller sur d'autres secteurs et pour adapter l'appareil de production à un environnement de clientèle qui évoluait et qui variait. Je pense qu'on a réussi puisqu'on a multiplié le chiffre par 3 par rapport à l'an 99, année à laquelle je suis venu.
On l'a dit en introduction, le groupe comprend une dizaine de sociétés, la plupart d'entre elles dans l'arc jurassien, en tout cas de nombreuses sociétés. Pourquoi cette région en particulier ?
Alors, c'est la région qui m'a accueilli. C'est une région un peu difficile. L'accueil n'a pas été toujours facile. Mais
pourquoi ?
Parce que le jurassien, je crois qu'il est méfiant, il regarde d'abord, il observe. Et au bout d'un certain temps, j'ai la faiblesse de croire d'avoir été accepté dans le tissu local. Et surtout, mes confrères, mes collègues ont vu qu'on investissait, qu'on n'était pas là pour écrémer les entreprises, mais bien pour investir, pour se déployer, pour engager des nouveaux employés. Et ça c'est toujours, disons, favorable par rapport à l'entourage.
Il y a un dénominateur commun entre toutes ces sociétés ?
Bien entendu, puisque le dénominateur commun, c'est la micromécanique. Donc tout ce qui est petit, l'usinage de ce qui est petit, ça peut être du tournage, du décolletage, du fraisage, du découpage. C'est vraiment l'usinage de petites pièces qui est notre dénominateur commun.
Aujourd'hui, ces nombreuses acquisitions, elles poursuivent quel but ?
Alors, l'objectif, c'est d'avoir une certaine taille, une taille suffisamment importante pour pouvoir s'attaquer à des marchés aussi conséquents, puisque nos clients s'intéressent à la solidité et à la pérennité de notre entreprise. Et aujourd'hui, s'ils s'adressent à un groupe de plus de 600 personnes, qui fait plus de 150 millions de francs de chiffre d'affaires, ça fait plus sérieux que si on est une entreprise d'une cinquantaine de personnes et qu'on fait que 10 millions de chiffres. Donc la taille est un élément important pour être un partenaire respecté de nos clients. Et nos clients, sachant qu'on est solide, n'hésitent pas à investir sur nous et croient en nous pour nous donner des nouveaux développements.
Aujourd'hui, donc, vos clients, ils viennent de l'horlogerie majoritairement ?
Oui. Alors, le chiffre d'affaires se répartit d'une façon quasi égale entre l'horlogerie et le secteur industriel, donc le secteur hors horlogerie, et ce qui nous donne un équilibre qui est assez intéressant, puisque si l'horlogerie a quelques soucis, on se rattrape sur le secteur industriel qui s'adresse à l'ensemble, à une clientèle qui est beaucoup plus mondiale.
Ces acquisitions, aujourd'hui, la crise économique, c'est un bon moment pour racheter des entreprises ?
Bien entendu, oui, on dit toujours, et ça j'ai appris dans le Jura, il faut acheter les bœufs quand personne ne les veut. Mais nous, même si les prix sont un tout petit peu plus bas, très souvent, lorsqu'on achète une entreprise, le dirigeant rejoint notre groupe et prend une participation, puisqu'une partie du prix consiste en un échange d'actions et en augmentation de capital de notre groupe. Ce qui fait qu'on ne souhaite pas, acheter l'entreprise à vil prix, puisque le dirigeant qui nous rejoint ne serait pas très très content de cette situation. Il faut toujours faire les acquisitions avec une équité et avec une certaine justice dans le prix.
Cette façon de faire, d'intégrer les dirigeants des entreprises que vous rachetez dans l'entreprise, vous parlez de gestion fédéraliste. Pourquoi et quel est le but de cette gestion-là ?
Je compare toujours un peu la France et la Suisse quand je vois la France avec beaucoup de ressources, beaucoup de moyens et le résultat avec un gouvernement qui est très centralisé. Et je vois la Suisse qui a peut-être certainement moins de moyens, mais grâce à un gouvernement qui est un gouvernement consensuel qui fonctionne d'une manière fédérale, je pense qu'il est plus performant et plus efficace. Cet avantage, je voudrais aussi l'appliquer à notre groupe pour qu'on profite de la motivation de chaque dirigeant dans sa filiale qui est très motivée parce qu'il a une grande indépendance. Mais on essaye néanmoins d'utiliser les avantages d'un groupe et notamment ce que l'on centralise, c'est bien entendu les données financières pour qu'on puisse piloter les entreprises d'une façon très très précise chaque mois. Donc il y a un reporting financier qui est fort et ça c'est peut-être la seule vraie contrainte qu'on applique à nos sociétés filiales.
Le fédéralisme politique, il a des avantages. Ensuite, il a aussi des inconvénients. Tout est assez lent. Est-ce qu'il y a aussi des inconvénients quand on l'utilise en entreprise ?
Oui, il y a toujours des inconvénients parce qu'on a parfois une politique générale de l'entreprise est plus difficilement applicable, mais on s'adresse aussi à des, non pas des courroies de transmission, mais à des dirigeants responsables qui sont très motivés. Et c'est plus difficile à gérer, certes, mais c'est beaucoup plus performant parce que, en toute modestie, toutes les entreprises qu'on a rachetées, on les a développées. On a pour le moment, et je touche du bois, on n'a pas connu d'échec et c'est peut-être parce qu'on a une approche fédéraliste de nos acquisitions.
Pour poursuivre dans les comparaisons entre la Suisse et la France, vu que vous les avez les deux connus, il y a aussi quelque chose qui est vraiment différent, c'est la relation entre les employeurs et les employés. Vous la ressentez, ça ?
Je pense que le patronat suisse respecte beaucoup plus les salariés qu'en France, où il y a une grande distance entre les dirigeants et les employés et les ouvriers. En Suisse, il y a une relation assez directe et la communication est très simple, ce qui fait que les syndicats, je pense, ne sont pas très puissants en Suisse puisqu'ils ne sont pas nécessaires, alors que la France, fonctionnant avec un système d'opposition entre l'employeur et l'employé, nécessite l'intervention d'un syndicat, ce qui complique les choses et qui rend la gestion beaucoup plus difficile. Je me félicite vraiment de gérer la majorité des entreprises en Suisse.
Une autre particularité de la Suisse, malheureuse pour les entreprises, en ce moment, c'est le Francfort. Vous exportez presque à 100%. Comment vous avez surmonté cette crise-là ?
Alors, on cherche à chaque fois, parce que lorsque je suis venu, le franc suisse était à 1,60, c'est-à-dire 1 euro valait un franc 60 suisse. Aujourd'hui, c'est pratiquement la parité. Donc, c'est très difficile, puisque nos clients ne peuvent pas changer les prix, puisque notre concurrence est mondiale, du moins pour toute la partie industrielle, puisque les prix sont très souvent exprimés en euros ou en dollars. Alors là, on a dû faire preuve d'ingéniosité. On a demandé à nos salariés d'être plus performants. Il faut qu'on trouve des solutions pour produire plus vite. Donc, on a demandé à l'entreprise de chercher toutes les sources d'amélioration de la productivité pour pouvoir être performant encore en s'adaptant à des prix qui sont diminués par la cherté du franc suisse.
Une autre des solutions, c'est l'innovation. Aujourd'hui, c'est quoi les activités de recherche et développement du groupe ?
Alors, quand vous nous disiez quel est l'avantage de grandir, alors l'avantage de grandir, c'est aussi de pouvoir se payer un département de recherche et développement digne de ce nom. Donc, c'est ce qu'on est en train de monter d'une façon assez importante. Alors, nos développements sont d'une part au niveau des machines pour concevoir des machines en interne qui sont plus rapides, qui produisent à des prix qui soient compétitifs. Ça, c'est une voie de notre recherche et développement. Et la deuxième, c'est aussi de travailler, par exemple, sur des produits, sur des revêtements. Notamment, on est en train de développer des revêtements spécifiques qui peuvent servir pour l'horlogerie, pour l'automobile, pour améliorer les niveaux d'usure. Et c'est un exemple de recherche et développement que nous faisons.
Des projets innovants, on n'en manque pas dans la région. Imaginez que votre montre vous permette d'ouvrir votre voiture ou de payer vos factures en toute sécurité. C'est l'heure de la chronique horlogère de Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure.
Imaginez un instant que vous puissiez vous passer des clés qui pendent à votre trousseau de plus en plus encombrant. Et tant pis si ça met passe-partout au chômage. Imaginez que vous puissiez aussi vous passer de vos différents codes, parce que ça fait beaucoup de chiffres à retenir.
1, 6, 2, 7, 7 et 9. 945.
Le compte est bon.
Imaginez encore que vous puissiez aussi vous passer de vos mots de passe. Ça tombe bien, vous en avez tellement que vous êtes obligé de les écrire sur un carnet. Tout ça, ce sera bientôt possible grâce à un système en cours de développement en Suisse. Pour ce projet, BioWatch, une start-up valaisanne, collabore avec le Centre Suisse d'électronique et de microtechnique à Neuchâtel.
Petit, toutes ces minutes dans notre vie.
Le module a été miniaturisé jusqu'à pouvoir être inséré dans le fermoir d'un bracelet de montre. Il utilise la reconnaissance biométrique en lisant la disposition des veines sur l'intérieur du poignet, parce que le dessin des veines est propre à chaque individu, comme le sont les empreintes digitales. Grâce à BioWatch, nous pourrons payer sans sortir notre carte bancaire. Nous pourrons entrer dans un local sans être obligés de sortir notre badge. Et nous pourrons même nous en servir pour notre voiture. Mathias Vanoni, cofondateur de BioWatch.
À l'instar de votre clé que vous gardez dans la poche et qui vous permet, par simple proximité avec la voiture, de l'ouvrir ou de la fermer, c'est l'état de l'art actuel. on pourrait très bien imaginer, c'est sur quoi on travaille avec BioWatch, à ce que la simple proximité de votre montre activée permette à la voiture de vous reconnaître et donc de se déverrouiller. Mais ça va bien au-delà de la clé cette fois, parce que comme ce n'est plus qu'une clé qu'on reconnaît, mais une vraie personne finalement, avant même que vous ouvriez votre porte, l'intérieur de la voiture, les sièges, les miroirs, la musique peut être adapté à votre goût, à votre taille, à votre personnalité. Et ça, c'est un peu la révolution qui attend l'industrie automobile avec toutes ces voitures connectées et ces perspectives de personnification.
En attendant, le projet avance et BioWatch doit déjà fournir des prototypes à des clients du monde de la banque au mois de juin. Et les entreprises horlogères, alors elles ne sont pas intéressées ?
Les entreprises horlogères suisses nous connaissent. Certaines nous ont dit non pour de multiples raisons, souvent des stratégies internes déjà établies qui ne permettent pas d'inclure BioWatch, d'autres pour des raisons de peur, des raisons, on va dire, de conservatorisme. Ils sont plutôt à suivre ce qui se fait plutôt qu'à anticiper et à créer des tendances. Tout ça, c'est tout à fait légitime, compréhensible. Et puis, on a malgré tout certaines marques plus avant-gardistes qui nous ont fait confiance et qui pourraient aboutir à des produits communs mêlant montres mécaniques et système BioWatch.
La start-up a levé 1 200 000 francs fin d'année dernière, mais BioWatch est toujours à la recherche de fonds dans l'optique de lancer son produit sur le marché.
Pile à l'heure.
De retour en studio avec notre invité François Bilic, président du groupe Acrotech. Les objets connectés, ça peut être un marché pour Acrotech ?
Alors, nous, c'est plutôt un concurrent, puisque la montre connectée était plutôt un épouvantail pour l'industrie horlogère. On l'a d'abord surestimée, ensuite on la sous-estime peut-être aujourd'hui. Je crois que la montre classique existera toujours, mais la montre connectée va quand même prendre une part des montres faites en Suisse, parce que les montres connectées, malheureusement, sont plus souvent fabriquées en dehors de Suisse et n'ont pas besoin de Swiss Made. Donc on est attentif, mais on se bat, nous, nos clients sont principalement des horlogers qui fabriquent des manufactures horlogères, qui fabriquent des montres mécaniques, donc des montres qui sont fabriquées selon une tradition horlogère et des montres à des prix relativement élevés et qui sont un peu décalées par rapport aux montres connectées, qui auront leur part de marché parce que les jeunes en voudront. Mais est-ce que c'est l'objet idéal ? Ça, on ne sait pas. J'espère que non, puisque ça nous fera quand même de l'ombre à moyen terme.
Pour terminer, si on parle du futur du groupe, quels sont les gros défis pour vous aujourd'hui ?
Alors pour nous, c'est toujours de grandir, d'être plus solide et de répondre aux besoins des clients. Je crois que très bientôt, je crois vendredi, vous aurez une information, on fera une acquisition très très importante d'une entreprise avec un très 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 gros savoir-faire qui se situe au niveau de la micromécanique, mais qui utilise d'autres techniques pour fabriquer une pièce qui utilisera plus une méthode, les méthodes dites additives. Et ça complétera, disons, la palette des produits qu'on offrira à nos clients. Et on restera toujours dans notre domaine, dans le domaine de la micromécanique, avec une technique nouvelle pour faire des pièces qui d'une plus grande complexité et d'une taille encore plus petite, puisque la miniaturisation est aussi à l'ordre du jour chez nos clients.
Vendredi, c'est demain, on ne peut pas déjà savoir l'entreprise ?
Je ne peux pas trahir ce secret, puisque le dirigeant va l'annoncer à ses salariés demain matin, et je ne voudrais pas lui enlever la primauté de cette information, parce que chez nous, le respect des employés, des salariés, est quelque chose d'important. Je ne voudrais pas dévoiler ce secret, même si ça pouvait vous faire plaisir.
On l'annoncera donc, nous, en temps et en heure. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. On vous souhaite une très bonne soirée.
Merci, bonne soirée à tout le monde.
Cet entretien, vous pouvez le retrouver en intégralité sur notre site internet. Et l'émission, elle revient la semaine prochaine avec des bulles. On va s'intéresser à l'entreprise Moller dans le Val de Travers avec Christine Moller. Une bonne cuvée de sortie de boîte qui vous sera présentée par Alizé Lichti. Très bonne soirée.